Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. À Bruxelles, le quartier nord tente de faire peau neuve. L'objectif, en faire une zone qui laisse la place aux piétons et aux habitants. On vous explique ça dans un instant. Mais d'abord, 2023 serait l'année la plus chaude sur les 100 000 dernières années. On va voir ce qu'en disent les climatologues. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité comme vous l'entendez.
Grand angle.
En 2023, la température moyenne à la surface du globe était supérieure de 1,45 degrés par rapport à la température de l'ère pré-industrielle. Pour les climatologues, c'est inattendu, c'est difficile à expliquer, c'est très inquiétant. Quelles en sont les conséquences, les conclusions que l'on peut tirer? Chloé Baudru a posé la question à Michel Demulonard, chef adjoint du Pôle Planète.
Bonjour Michel.
Bonjour Chloé.
L'année 2023 a donné un grand coup de chaud à notre planète. Les températures enregistrées ont dépassé celles de l'ère pré-industrielle de 1,45 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça signifie ce chiffre et pourquoi les climatologues se réfèrent-ils à cette ère en particulier pour faire leurs calculs?
Alors, ce que signifie le chiffre, c'est un réchauffement évident. Donc, c'est 1,45 degré en plus. Ça veut dire que notre Terre se réchauffe et elle se réchauffe de manière régulière depuis très longtemps. La deuxième chose, pourquoi par rapport à l'ère pré-industrielle? C'est une convention pour la mesure du réchauffement climatique. Pourquoi cette convention? Parce qu'en fait, c'est le début de l'utilisation massive des énergies fossiles par les humains. Donc les énergies fossiles, c'est le charbon, le pétrole, le gaz fossile. Ce sont ces énergies-là qui sont les principales responsables des émissions de gaz à effet de serre, de CO2 en particulier, ces émissions-là étant responsables du réchauffement climatique.
Pourquoi l'année 2023 est-elle considérée comme un cas exceptionnel en matière de réchauffement climatique?
Alors c'est un cas exceptionnel parce que le réchauffement est beaucoup plus important que les années précédentes. Donc jusqu'ici, la tendance était à un réchauffement régulier globalement de 0,1 degré par décennie. Ce qui s'est passé en 2023, c'est qu'on a eu un bond de réchauffement, une hausse brutale de la température qui est d'abord importante par rapport à la tendance de ces dernières années et par ailleurs elle est totalement imprévue, donc on ne s'attendait pas à ce que ce réchauffement se marque. Alors si on regarde la tendance plus longue sur plusieurs décennies, ça c'est important pour considérer le réchauffement du climat, cette année 2023 est exceptionnelle mais elle est totalement cohérente avec le réchauffement qu'on connaît depuis des décennies.
Comment les climatologues expliquent ce bond de 1,45 degrés Celsius et quelles sont surtout leurs hypothèses?
Alors ce que je vous ai expliqué, c'est que c'était inattendu. Donc les climatologues font régulièrement des projections avec leurs modèles climatiques. Et globalement, en fonction de ce qui s'est passé les années précédentes, on peut prédire, avec une marge d'erreur évidemment, on peut prédire un réchauffement pour l'année qui vient ou pour l'année qui suit. Ici, 2023 a démenti tous les modèles. Les climatologues avaient fait tourner leurs ordinateurs et n'avaient pas trouvé des probabilités sérieuses d'avoir un réchauffement aussi important. Donc ça, c'est un des premiers éléments qui fait que l'année 2023 est exceptionnelle. Alors, d'où vient ce réchauffement? En fait, il y a plusieurs hypothèses, il y a plusieurs pistes. On ne peut pas dire que ces pistes résolvent l'énigme. Donc il reste un point d'interrogation après l'examen de ces pistes. Alors ces pistes, c'est quoi? C'est d'une part l'éruption volcanique d'un très gros volcan du côté des îles Tonga. C'était un volcan sous-marin. Et lors de l'éruption volcanique, il y a eu une émission très importante de vapeur d'eau, puisqu'il y avait de la chaleur, il y avait de l'eau. Donc comme dans votre bouilloire, eh bien il y a de la vapeur d'eau qui sort. Et la vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre. Donc cette éruption et la vapeur d'eau qui a été émise en janvier 2023 ont pu contribuer au réchauffement de l'année 2023. Alors, il y a une autre piste que les climatologues suivent, c'est l'influence d'un phénomène climatique qui revient régulièrement sur la planète qu'on appelle le phénomène El Niño, qui est un réchauffement d'une partie assez importante du Pacifique équatorial, du côté au large des côtes du Chili, de la Colombie, etc. Et lorsque ce phénomène apparaît, il suscite un réchauffement très important des eaux du Pacifique, un petit peu comme un radiateur. Ce réchauffement-là contamine l'ensemble de la planète et les années El Niño sont généralement des années relativement chaudes, voire très chaudes. Étonnamment, le phénomène El Niño de cette année-ci n'est pas un phénomène record qu'on ait jamais enregistré. Donc là encore, c'est une hypothèse qui a pu contribuer au réchauffement de 2023, mais ça n'explique pas tout. Autre hypothèse, c'est le fait que les émissions de méthane ont fortement augmenté. Donc vous savez que le méthane est un des principaux, le deuxième principal gaz à effet de serre avec le CO2. Il se fait qu'il y a toute une série de sources de méthane qui manifestement sont plus importantes qu'auparavant, à savoir, un, les émissions de l'élevage, essentiellement de l'élevage bovin. Deux, il s'agit des fuites, des puits de pétrole et des puits de gaz qui se font sous forme de méthane. Et trois, il y aurait un phénomène naturel d'émissions de méthane dans certaines régions du monde. Donc ça, c'est une des possibilités aussi qui pourrait éventuellement expliquer le réchauffement. Et la dernière hypothèse la plus sérieuse, je dirais, c'est le fait que depuis un certain nombre d'années, les États du monde ont pris des mesures pour faire en sorte que les carburants des navires soient moins polluants, et notamment qu'ils émettent moins de soufre. Or, le soufre est un polluant nocif pour la santé, mais qui par ailleurs, lorsqu'il va s'installer dans l'atmosphère, sert un petit peu de protection, en ce sens qu'il renvoie les rayons du soleil. Donc en fait, ce soufre est une espèce de protection et il a un effet refroidissant sur la planète, sur la température de la planète. Le fait qu'on ait pris des mesures pour lutter contre les effets sanitaires de ces polluants, donc pour diminuer ces polluants, eh bien ça a fait que les concentrations de ces aérosols, de ce soufre dans l'atmosphère ont diminué, et donc l'impact refroidissant de ces aérosols a diminué lui aussi. Donc, par conséquent, eh bien, la Terre a pu davantage se réchauffer en 2023 sous cet effet-là. Alors, comme je le disais, c'est une série de pistes. Mais il y en a d'autres par ailleurs, mais je ne vais pas toutes les détailler. Mais pour l'instant, aucune d'entre elles, toutes seules d'abord, n'explique les choses. Et même combinées ensemble, il reste un élément d'incertitude qu'on n'a pas encore réglé.
En 2015, les accords de Paris se sont engagés à ne pas passer la barre des 1,5 degrés Celsius. En 2023, on enregistre un bond de 1,45 degrés. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces engagements aujourd'hui ?
1,45 degrés, c'est assez proche de 1,5 degrés. Donc, la première chose qu'il faut constater, c'est qu'on se rapproche de plus en plus de cet objectif. À Paris, les États ont dit, nous allons faire tous nos efforts, un maximum d'efforts, pour essayer de maintenir le réchauffement sous cette barre de 1,5 degrés. Donc, manifestement, plus on s'en rapproche, plus on a la preuve que les États ont pris un engagement, mais qu'ils tarde à mettre en place les mesures et les politiques qui sont nécessaires pour tenir cet engagement. Il ne suffit pas de s'engager, il faut aussi faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif. Donc on a manifestement un souci de ce côté-là. Les émissions de gaz à effet de serre mondiales continuent à augmenter alors qu'elles devraient diminuer pour permettre de tenir cet objectif de 1,5 degré. Donc là, on a un souci. L'autre souci, c'est que les scientifiques ont bien montré que plus la température augmente, plus les impacts du changement climatique vont être graves et vont être longs dans la durée. Donc ce sont des inondations, des sécheresses, des vagues de chaleur, avec tous les impacts que ça peut avoir sur les incendies de forêt, sur les communautés humaines évidemment, et sur la biodiversité. Donc plus la température augmente, plus ces impacts vont devenir graves et prononcés. Donc on approche le seuil de 1,5. Il est probable, il est quasiment même certain, voire certain, que la barre de 1,5 degré sera dépassée dans les années qui viennent. Alors, il faut évidemment être prudent parce que la météo et le climat sont des phénomènes variables. Donc, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des années très chaudes et des années moins chaudes, même si la tendance est au réchauffement. Donc, il est possible que certaines années, on dépasse 1,5 degré, donc qu'on grille l'engagement de l'accord de Paris. Il faudra quand même attendre que la température s'installe durablement au-dessus de 1,5 degré pour qu'on puisse vraiment dire que l'objectif a été manqué, parce qu'il ne suffit pas d'une année de dépassement pour dire, voilà, c'est fini, c'est foutu, on n'y est pas arrivé. Et l'autre remarque qu'il faut faire, c'est que ce n'est pas parce qu'on a dépassé 1,5 degré qu'il faut se dire bon voilà, c'est mort, on arrête tout et on baisse les bras. Donc il ne faut pas oublier que toute augmentation de la température évitée, même au-delà de 1,5 degré, tout dixième de degré de réchauffement qu'on évite, c'est quelque chose de bon à prendre. Donc, si on est à 1,6 degré et qu'on évite d'aller jusqu'à 1,7 ou 1,8, c'est bien mieux que de laisser filer les choses et d'abandonner les efforts.
Est-ce que l'année 2023, ce cas, va revenir dans les années à venir?
Il est probable que 2024 sera également une année très chaude parce que nous sommes toujours sous l'influence de ce fameux phénomène El Niño. Et par ailleurs, il est possible qu'il y ait un certain nombre de phénomènes qui font que le réchauffement s'accélère et qu'il est beaucoup plus important qu'en fait on ne le pensait. Donc pour l'instant, les scientifiques et les organisations internationales disent que 2024 sera vraisemblablement une année très chaude et sera peut-être même une année record en matière de réchauffement. Ça ne veut pas dire, par exemple, que 2025 ou que 2026 ne pourraient pas être des années plus « fraîches », entre guillemets. Donc ça veut dire qu'elles continueront à s'inscrire dans la tendance au réchauffement, mais qu'elles seront peut-être plus « fraîches » que 2023 ou que 2024 parce qu'il y a des variations, parce que, par exemple, ce fameux phénomène El Niño sera sans doute, traditionnellement, il est suivi par un phénomène de refroidissement. Donc ça va, le balancier va peut-être partir un petit peu dans l'autre sens. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'on est dans une tendance au réchauffement, que c'est inéluctable, que tant qu'on ne réduit pas drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, ce réchauffement va se poursuivre. Donc, c'est le message qu'il faut retenir. Il faut retenir que tout ça est grave, mais tout ça n'est pas inéluctable, qu'il faut, d'une part, continuer à prendre des mesures à la fois au niveau collectif et au niveau individuel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais qu'il faut aussi, vu que la température augmente, il faut aussi très sérieusement songer à prendre des mesures d'adaptation, de protection des populations, des infrastructures, des écosystèmes. Il faut prendre des mesures déjà maintenant pour éviter, se protéger contre les effets les plus graves du réchauffement du climat.
Merci Michel.
Merci Chloé.
Ne dites plus quartier nord, mais BX Nord, pensée et transformée dans les années 60 pour les voitures et les bureaux. Cette zone de Bruxelles veut changer d'identité, focus désormais sur les piétons, sur les habitants et sur les travailleurs. Après avoir été longtemps délaissé, le quartier est devenu un Eldorado pour les promoteurs immobiliers, mais les défis restent multiples, pour le privé comme pour les pouvoirs publics. Insécurité, risque de gentrification, mobilité. Julien Cambier en parle avec Paolo Leonardi, le responsable du Soir Immo.
Bonjour Paolo.
Bonjour.
Alors, retournons d'abord en arrière. Le quartier nord qu'on connaît aujourd'hui découle d'un projet lancé dans les années 60, le projet Manhattan. En quoi consistait-il ?
Bien, ce projet Manhattan, en fait, donnait la priorité à l'utilisation de la voiture et du bureau. Donc, en gros, cette zone, on parle quand même ici d'une zone de 50 hectares. Ce quartier nord est quand même assez développé. On a décidé à un moment d'en faire un quartier de bureau où les gens venaient travailler en voiture, se garaient dans le parking, montaient travailler à leur étage, redescendaient le soir, reprenaient la voiture. Et on se retrouvait avec des quartiers complètement déserts le soir. Et ça a duré encore jusqu'à pas très longtemps, donc c'est ça qu'on espère changer avec cette modernisation dans le quartier. Mais le projet Manhattan, ça a été vraiment quelque chose qui a gardé une image négative pendant de très nombreuses années. On a parlé de la fameuse bruxellisation. Je crois qu'il y avait plus ou moins 11 000 personnes qui ont été délogées pour faire la place à une multitude de tours. Heureusement, elles n'ont pas toutes été construites. Mais voilà, on a quand même eu l'émergence de ce quartier qui, 50 ans plus tard, on en parle encore. Et maintenant, on a compris que c'était une grosse erreur. Et les promoteurs aujourd'hui qui sont propriétaires des immeubles dans le coin veulent changer radicalement l'image de ce quartier.
Et donc aujourd'hui, on fait table rase du passé, on repense complètement le quartier. Qui est derrière ce projet ?
Alors, derrière ce projet, ben vous avez les gros promoteurs immobiliers qui sont propriétaires de ces immeubles, qui sont rassemblés au sein d'une ASBL qui s'appelle Up for North. Il y a 9 gros propriétaires de bâtiments qui ont décidé de repenser un peu l'image du quartier. Quand vous disiez table rase, pas tout à fait malgré tout, parce que bon, ces immeubles sont là, on ne va pas tous les raser évidemment. La question est de savoir maintenant ce qu'on va en faire, et c'est ce qui est en train d'être mis en place, c'est de changer progressivement la fonction principale de ces immeubles et de ne plus en faire que des immeubles de bureaux. Ça, c'est le gros enjeu, c'est d'amener de la mixité sociale, de ramener des habitants dans le quartier, de ramener des commerces, un hôtel, de l'animation. En fait, c'est ça.
Et comment on replace les piétons, les travailleurs et les habitants dans ce quartier repensé ?
Ça, c'est tout le défi qui va avoir lieu dans les prochaines années, parce que pour l'instant, certains promoteurs ont complètement renouvelé, rénové leur bâtiment. Dans certains bâtiments, on commence à avoir une mixité qui s'installe, avec des espaces de coworking aussi, notamment le projet Zine, qui est le projet, on va dire, emblématique de la zone, va amener du coworking, du résidentiel aussi. Il n'est pas encore tout à fait terminé. La partie bureau est achevée. Mais c'est franchement un beau projet. Maintenant, de là à voir si tout va se réaliser, je pense que voilà, il faudra se redonner rendez-vous d'ici quelques années pour voir si le pari a été réussi.
Et concrètement, est-ce qu'on peut déjà voir des changements dans le quartier ?
Je pense que c'est encore un peu tôt. Honnêtement, je dis Zine, voilà, le projet Zine, les bureaux sont terminés, on attend encore le reste du développement. Mais il y a beaucoup de bureaux, hein. Tous ces bureaux ont la particularité d'avoir été construits en même temps. Et donc forcément, ils arrivent tous en bout de course en même temps, donc il faut les renouveler. Vous pensez bien que rénover ce genre de tour, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Mais voilà, on peut avoir bon espoir de voir ce quartier nord changer en tout cas d'image et d'étiquette, j'ai envie de dire.
Et on l'a dit, le quartier avait été pensé pour la voiture. Comment va-t-il évoluer pour s'adapter à la mobilité d'aujourd'hui ?
Alors justement, là, il y a des études qui sont en cours. C'est encore un peu tôt pour en parler, mais ils sont en train de repenser notamment le long du boulevard du Roi Albert II. Moi, j'ai discuté avec certains promoteurs qui me disent que pour l'instant, voilà, comme je le disais, on en est au stade des études, mais pourquoi ne pas mettre les voitures, les voies réservées aux voitures d'un seul côté, amener beaucoup plus de verdure dans le coin. Mais encore une fois, je suis comme vous, je suis comme tout le monde, j'attends de voir ce qui va être développé. Mais des études sont en cours, ça c'est sûr, des réflexions sont en cours. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est quand même à souligner, c'est que c'est une collaboration vraiment entre le privé, les promoteurs privés et les autorités publiques également, qui elles aussi sont conscientes que ce quartier doit être complètement revu. Un des aménagements qui sera assez important, c'est on parle d'un tram qui assurera la jonction entre le quartier nord et le site de Tour et Taxi. Tour et Taxi, je ne dois pas vous faire un dessin, vous savez ce que c'est, cet énorme endroit rempli de bureaux, de logements et tout, qui va apporter de la vie à ce quartier. Et je pense qu'effectivement, ça pourrait être un lien assez important qui pourrait faire revivre l'ensemble du quartier nord. Alors,
face à ce genre de projet de rénovation globale, des craintes concernant la gentrification du quartier sont souvent présentes. Qu'en est-il pour celui-ci ?
Je pense que on est en plein cœur du débat, puisque pour réaliser le reportage, nous sommes allés voir l'Union des locataires du quartier nord. Et là, quand vous leur parlez du logement qu'on va prévoir dans l'aménagement de ces tours, eux disent oui, c'est très bien, mais en fait, on sait déjà, d'ores et déjà, que les logements qui vont être prévus ne seront pas pour les personnes à loyer très modéré. Ce ne sera pas du logement social, ce sera pour des loyers, on va dire pour la classe moyenne. Donc ils se sentent dès à présent exclus, alors qu'il faut quand même signaler aussi que certains projets, dont le CCN, qui est ce bâtiment qui se trouve juste à côté de la gare du Nord, qui est en plein renouveau, les travaux viennent seulement de commencer, mais là il y a du logement social qui est prévu. Mais quand vous voyez le nombre de personnes en attente d'un logement social qui sont sur les listes d'attente, ce sera malgré tout une goutte d'eau dans un océan, quoi. Aujourd'hui, le quartier nord compte quelque 12 000 logements, dont environ 1 500 qui sont à caractère social. Et il y a 56 000 personnes qui sont en attente d'un logement social. Donc, vous voyez l'immensité de la tâche. Le quartier nord ne va pas résoudre ce problème-là, ça c'est certain.
Merci Paolo.
Je vous en prie.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À lundi.